Cette histoire qu'on vient d'entendre, on l'appelle habituellement l'histoire de la conversion du centurion Corneille. Et c'est normal, Corneille aimait déjà le peuple juif, il s'intéressait au Dieu d'Israël, et voilà qu'il a reçu par l'intermédiaire de l'ange, puis par sa rencontre avec l'apôtre Pierre, il a reçu la révélation que ce Dieu était tout proche. Et puisque même si le texte ne nous le dit pas en toutes lettres, on comprend qu'il a découvert la présence de Christ dans sa vie, cette présence qu'on appelle la grâce. Et nous savons bien que le baptême qu'il va recevoir manifestera justement cette grâce aux yeux de tous les croyants. Et même s'il ne peut pas faire le chemin lui-même jusqu'à Joppé pour rejoindre Pierre, en le faisant chercher et surtout en allant à sa rencontre, c'est déjà une manière, bien sûr, de chercher à se rapprocher de lui. Mais en réalité, comme je l'ai dit la semaine dernière déjà en l'annonçant, ce que cette histoire magnifique nous raconte, je crois que c'est surtout la conversion de Pierre lui-même. Une conversion qui va avoir une importance fondamentale, qui va bouleverser tous ses principes religieux et qui bouleversera encore plus toutes les premières communautés chrétiennes. Et peut-être aussi que cette histoire a été écrite justement pour justifier des bouleversements qui existaient déjà, qui étaient déjà en train de se produire, pour les expliquer. Et c'est bien possible, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces communautés étaient composées de juifs convertis au Christ, c'est-à-dire des juifs baptisés, mais qui continuaient à pratiquer les obligations rituelles et les interdits alimentaires. Et surtout, c'est important, des gens qui croyaient que le Christ était venu seulement pour les juifs, pas pour les autres. Alors bien sûr, vous vous en doutez, l'histoire ne va pas s'arrêter là où je me suis arrêtée dans la lecture, quand Pierre ordonne que le centurion romain Corneille reçoive le baptême. Ça, c'est la fin du chapitre 10. Mais pour beaucoup de ces judéo-chrétiens, aller chez Corneille, manger avec lui, le baptiser, toutes ces actions qu'a faites Simon-Pierre étaient encore plus scandaleuses que le baptême de l'eunuque éthiopien par Philippe. Et là, maintenant, c'est Pierre. Et pour beaucoup de ces judéo-chrétiens, Pierre dépasse les bornes. Les gens ne comprennent pas. Alors quand vous rentrerez chez vous et que vous relirez ce chapitre 10 des Actes des Apôtres, vous lirez aussi la suite, le début du chapitre 11. Et vous verrez qu'après cette histoire, Pierre a été carrément convoqué par les autres apôtres et les frères. On connaît cet amour fraternel. Et les frères de Jérusalem pour s'expliquer. Et ça ne s'est pas passé tout seul. Tu es entré chez des incirconcis notoires et tu as mangé avec eux. C'est le verset 3 du chapitre 11. Et Pierre sera obligé de raconter à nouveau, c'est la troisième fois qu'on la lira, sa vision, de tout leur raconter pour qu'ils retrouvent leur calme et qu'ils disent à la fin, avec un profond étonnement, « Voilà que Dieu a donné aussi aux nations païennes la conversion qui mène à la vie. » Et oui, voilà le sens profond de cette histoire. Et nous savons bien que c'est une histoire absolument fondamentale pour nous, puisqu'elle va transformer ces petites sectes judéo-chrétiennes et leur permettre de devenir tout simplement l'Église universelle. Mais pour que cette transformation soit possible, il a fallu cette conversion de Pierre. Et je voudrais juste que nous la regardions d'un tout petit peu plus près, à la fois comme un événement théologique et comme un exemple à suivre. L'Esprit parle à Pierre et lui dit « Descends et pars sans hésitation ». Il le bouscule déjà. L'Esprit, le même qui a déjà secoué tous les apôtres à la Pentecôte. Et vous l'avez entendu, à la fin de ce chapitre 10, on assiste à une nouvelle Pentecôte, une Pentecôte pour les incirconcis. Incroyable, l'Esprit qui vient maintenant de lui envoyer cette vision épouvantable, tous ces animaux impurs, L'esprit qui lui a dit qu'il devait les manger, même pas qu'il devait les, qu'il pouvait, mais qu'il devait le faire. Je pense qu'on a du mal à imaginer le traumatisme, parce que ce que Pierre a vu et entendu, c'est tout simplement le contraire de ce qu'il avait toujours appris, le contraire de tout ce qui est prescrit dans la Torah, et en particulier, on l'a entendu, dans le Lévitique, parce que je vous ai fait un abrégé, hein, mais on en trouve des pages et des pages sur les animaux et les aliments purs et impurs, et aussi sur l'impureté des humains. Et ce qui est extraordinaire, justement, c'est que devant cette manifestation de l'esprit, Pierre n'a presque pas, j'allais dire il n'a pas, mais il n'a presque pas discuté. Bon, il a dit trois fois, non, jamais, mais quand il a compris que c'était sérieux, il n'a pas discuté. Il ne comprenait pas la vision, et à la fin, il ne la comprenait toujours pas. Et pourtant, dans cette vision qui le dépassait, il a reçu un message divin. Et il aurait très bien pu le rejeter, penser qu'il venait du diable, continuer à protester. C'est ce qu'on fait le plus souvent, hein, y compris en Église, dans l'histoire de l'Église, on le sait très bien. S'il y a un changement qui se profile, quelque chose qui peut nous paraître dangereux, eh bien, si on ne veut pas, si on n'est pas capable de l'accepter, on va dire « c'est diabolique, c'est très mauvais, c'est l'inverse ». Voilà. Eh bien, il aurait pu, non. Non, justement, c'est ça qui est intéressant. Pierre, qui est souvent d'un naturel impulsif, qui réagit au quart de tour, eh bien là, il a accepté. Et peut-être que c'est parce que, je crois en tout cas, sa fréquentation du Christ, ce qu'elle lui a enseigné avant tout, c'est à écouter et à chercher ce que Dieu attend de lui. Et non seulement il a écouté, mais il s'est laissé transformer par ce message. Aujourd'hui, on dirait qu'il s'est laissé déplacer. C'est un mot qu'on aime bien dans l'Église protestante unie de France. Moi aussi, je l'aime bien. Il s'est laissé déplacer, déplacer spirituellement, déplacer psychologiquement et déplacer physiquement, puisqu'il est allé lui-même à Césarée. Et il le dit, « Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. » Et c'est pourtant écrit dans la Bible, dans la Torah, à plusieurs endroits, en toutes lettres. Et voilà que Dieu lui a montré que ces différences entre les humains, ça n'avait plus de sens, c'était terminé. Et là, voilà la véritable conversion de Pierre. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, bien sûr, il y aura d'innombrables rechutes de sa part, oui, et aussi des milliers d'occasions où les chrétiens oublieront ce message, se croiront autorisés à condamner, ou même à purifier, y compris par le feu. Et bien pourtant, à partir de ce moment-là, l'essentiel est déjà dit. On ne doit dire d'aucun humain qu'il est souillé ou impur. Et cette phrase, bien sûr, elle s'adresse à chacune et chacun de nous, parce qu'elle exprime tout simplement l'amour universel. Et pourtant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il me semble qu'elle n'est pas toujours facile à entendre et encore moins à respecter. C'est tellement plus facile, tellement plus rassurant de cultiver la haine, le mépris ou tout simplement l'indifférence envers nos frères humains. Tous nos frères humains, sans nous sentir obligés d'essayer de les comprendre et de les respecter. Et c'est pourquoi je vous ai proposé cette réflexion en deux temps depuis dimanche dernier aussi. Parce que comme Pierre, comme les juifs nouveaux chrétiens qui l'écoutent, pour devenir vraiment humains, nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte. C'est-à-dire, nous avons grand besoin que l'Esprit Saint nous tombe dessus pour nous aider à nous ouvrir aux autres, à tous les autres. Qu'il nous donne le don des langues pour nous permettre de vraiment les rencontrer et les respecter. Alors quand je dis que nous avons besoin de recevoir l'Esprit, je ne veux pas dire par des visions ou des manifestations surnaturelles, mais tout simplement en nous ouvrant à sa présence dans nos cœurs. Et d'ailleurs, c'était déjà peut-être le sens de la vision de Pierre. Il devait se poser déjà des questions ces questions, elles traversaient déjà l'Église. Et peut-être que quand il a eu cette vision, c'était une réponse à ces questions qu'il se posait. Car nous avons besoin, comme Pierre, de continuer à nous convertir pour aimer plus. Et pourquoi ? Parce que cette conversion, cette ouverture à la nouveauté et à l'écoute, elle ne nous est pas demandée une fois, mais en permanence. Parce que rien n'est plus facile que d'y renoncer, de l'oublier. En deux jours, Pierre a appris, il me semble, la véritable humilité, celle qui consiste à renoncer à ses certitudes, à ses conformismes. Il a entendu, il a compris, il a accepté un message divin qui lui disait le contraire de ce qu'on lui avait enseigné toute sa vie, comme un principe religieux immuable. Il a découvert le sens de la véritable fraternité. Il a relevé un non-juif en lui disant « Moi aussi, je suis un être humain. Nous sommes différents, mais je suis ton frère en humanité. » Et pour finir, il a découvert que la grâce de Dieu en Jésus-Christ par le don de l'Esprit n'était pas réservée aux Juifs, mais offerte à tous. Je vous rappelle la phrase « Tous les croyants circoncis furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit et de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs. » Elle peut nous faire sourire aujourd'hui, cette phrase. Ça nous paraît tellement normal. C'est le contraire qui nous paraît très scandaleux. Eh bien voilà, ils furent stupéfaits. Mais ils l'ont entendu. Et c'est très important, cette deuxième petite Pentecôte. C'est très important, y compris qu'elle soit située dans le livre des Actes par Luc à la fin de ce chapitre. Parce que c'est une manière pour Luc d'affirmer que la foi chrétienne que les non-juifs ont découverte a autant de valeur que celle des juifs circoncis. On pourrait très bien imaginer une hiérarchie très rapidement qui s'installerait très rapidement. Et donc, Luc peut-être démine le terrain. Ils reçoivent aussi l'Esprit Saint. Ils n'étaient pas à la Pentecôte, mais là, ils reçoivent l'Esprit Saint. Et leur baptême aura autant de valeur que celui reçu par les juifs par les juifs convertis au christianisme. Et donc, il y a en effet de quoi se réjouir. Et il y a de quoi parler en langue. Car le baptême que Corneille et toute sa maison vont recevoir, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, le signe de cette grâce que nous sommes tous invités à demander et à recevoir. Parce que cette grâce peut nous aider à proclamer qu'aucun être humain n'est ni souillé ni impur. Elle peut nous aider tout simplement à aimer. Amen.